Bonjour et bienvenue dans Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en août 2013 et c'est le numéro 27. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'épisode apéro, ouais, avec plein de gens autour de la table, avec une partie seulement de l'équipe habituelle, composée aujourd'hui de Com.
Salut.
Et de Yannick.
Bonjour à tous.
Et comme l'année passée, nous recevons des gens qui ont envie de parler de jeux de rôle, c'est-à-dire Loïc.
Bonsoir.
Qui était déjà passé l'année passée, Loris, pareil. Et Callisto, que certains d'entre vous ont pu entendre dans l'épisode live.
Qui m'a caché dans les caves. Voilà. Bonsoir, mais j'ai moins de 50 ans.
Alors, normalement, nous aurions dû être plus nombreux, mais j'ai un peu merdé dans mes invitations. Donc, encore toutes mes excuses à François et Raphaël, mais ce n'est que partie remise. Au programme, donc, quelques critiques de jeu avec Stargate, Oltrey, Saga of the Icelanders, Fragmentos et Vornheim. Et bien, nous allons commencer par qui a envie d'entamer. Allez, Loris, tu m'as l'air chaud.
Oh, mais bon.
Allez, Fragmentos.
Alors, assez peu connu dans l'Hexagone, les jeux de rôle espagnols ont quand même pas mal évolué depuis, la première édition de Aquelarre, entre autres.
Jeu qui, lui, a été traduit.
Lui, il a été traduit en français. Il y en a eu tout un tas qui n'ont pas été traduits. Et étant donné la diversité des langues sur la péninsule, il y a eu des jeux de rôle dans un peu toutes les langues. Le catalan, le basque, l'espagnol et tout. Entre autres, à cause de la crise et plusieurs choses, les éditeurs ont de plus en plus galéré. Et à l'heure actuelle, il n'en reste pas des masses, en fait. Mais chose rigolote, ils ont traduit pas mal de jeux en anglais vers l'espagnol, beaucoup plus loin que nous. Par exemple, Unknown Armies, je crois que quasiment l'intégralité de la gamme a été traduite en espagnol, alors qu'en France, ça s'était arrêté au deuxième, un truc comme ça. Innominé Satanis avait eu une édition espagnole avec deux suppléments. Il y a eu plusieurs autres, enfin tout un tas de jeux de rôle. À l'heure actuelle, il y a un gros éditeur qui est très très pushy, qui produit pas mal de choses, et plein de petits autres qui galèrent. Et il y a aussi FFG qui fonctionne, enfin Edge, qui ouais. Produit des jeux de rôle en espagnol, comme une superbe édition, mais un truc de fou, de l'Appel de Cthulhu, qui est, magnifique, quoi. C'est un gros bouquin carré, tout couleur, avec toutes les illustrations refaites. No Solo Roll, le gros éditeur espagnol à l'heure actuelle, à ma connaissance, maintenant c'est difficile de trouver des boutiques sur place, a sorti, entre autres, la nouvelle édition d'Aquelarre, c'est la raison pour laquelle j'ai découvert, mais tout un tas de jeux de rôle originaux. Par exemple, Slang est l'un des équivalents de Cops, fait par les Espagnols, où le monde est un peu plus sombre, un peu plus polar noir. Ça reste Los Angeles, ça reste au soleil, mais ça fait beaucoup plus penser à The Shield, en fait, que les scénarios de Cops que j'ai lus, qui étaient un peu plus light, un peu plus lumineux. Il y a une campagne qui s'appelle Oro and Plomo, qui est vraiment inspirée de The Shield, où l'équipe de flics va récupérer une grosse valise pleine d'or, et là, ils vont commencer à avoir des emmerdes, parce qu'ils vont devoir garder le pognon, ce qui est normal.
Ok.
Tu as une drôle d'idée de la police.
De la police espagnole, en tout cas.
Non, j'ai une drôle d'idée des PJ, en général.
Ok, ça se comprend mieux, alors.
Là, je vais vous parler d'un jeu de rôle qui s'appelle Fragmentos, qui est sorti assez récemment. C'est un jeu de rôle d'horreur cinématographique typé Scream, tout ce qui est slasher, film d'horreur avec les licences sans fin, avec 6 ou 7 volumes à la Freddy et à la Jason, et avec un système assez original. Donc le bouquin existe aussi en PDF, donc si vous voulez vous mettre à l'espagnol, c'est l'occasion. No Solo Roll les vend super pas cher, donc vous pouvez acheter la gamme entière pour le prix d'un seul des bouquins. Et en plus, si vous les achetez sur leur site et vous décidez d'acheter de passer au papier, vous enlèveront le prix du PDF du prix final. C'est plutôt sympa.
Ah, c'est sympa, ouais.
Alors, Fragmentos...
Michetim fait la même chose, et effectivement, ça commence à être de plus en plus répandu comme manière de faire, et j'aime bien.
Ouais, moi j'aime bien aussi. Fragmentos, c'est un jeu de rôle où vous allez jouer normalement plutôt de chances de jouer des gros teenagers qui vont mourir par paquet de 12 vers la fin du film, mais qui vont survivre assez longtemps. Les personnages sont définis par trois caracs, que j'ai oublié. Il y en a une en gros pour l'action, il y en a une pour la réflexion, et il y en a une pour les...
pour mourir dans notre souffrance.
Pour la perception, voilà. En gros, vous êtes noté sur 2, 3, 4, un truc comme ça pour chaque carac, et vous allez lancer à chaque action le nombre de dés de votre carac en D6. Donc vous avez 3 en action, vous voulez cogner quelqu'un, vous lancez 3 D6. Le truc rigolo, c'est qu'en fait, vous prenez votre meilleur dé, donc vous avez fait, je sais pas, 2, 4, 4, vous prenez le 4. Voilà, c'est votre niveau de réussite. Mais comme vous avez fait plusieurs fois le même chiffre, vous rajoutez 1 pour chaque chiffre de là. Donc ça peut aller assez loin dans les valeurs et vous pouvez faire des super actions. Le truc vraiment intéressant, c'est quand vous faites des 1. Chaque fois que vous faites des 1, en fait, ça s'appelle des présages et ça va s'accumuler. Et ces présages vont modifier le scénario en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des seuils de quantité de présages à partir duquel, déjà, les personnages vont perdre leur immunité scénaristique. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir crever. Alors qu'avant, ils sont juste blessés, mourants au fond du garage. Et quand ils disent « je reviens tout de suite », ben, ils finissent par revenir. Plus ou moins blessés, mais ils reviennent. Au bout d'un moment, ben, ils vont pouvoir crever. Et aussi, le monstre ou la créature maléfique, ou peu importe le truc qui va avoir tendance à les massacrer, lui va gagner des pouvoirs au fur et à mesure des présages, en fait, et se commencer à s'éveiller et devenir de plus en plus dangereux. Alors le jeu traite de tous les genres cinématographiques d'horreur dans la gamme Freddy, Jason et Tripou, quoi. Et le truc intéressant, c'est qu'il vous propose tout. Donc si vous voulez faire du Amityville, il y a dans les descriptions le lieu dangereux qui va gagner. Alors soit c'est un cimetière indien, soit c'est une maison où il y a eu des crimes, ou peu importe, c'est le classique, quoi. Mais ce lieu va enfermer les personnages et gagner de plus en plus de pouvoir jusqu'à devenir vraiment dangereux pour les personnages. Alors, un truc qui est rigolo, c'est qu'ils ont sorti une campagne qui est vraiment à vil prix. Il me semble que c'est sorti pour Noël dernier ou l'année d'avant. Ça s'appelle Sangrientas Navidades, donc Noël sanglant. Et c'est une saga à la Freddy, c'est-à-dire que vous avez une petite introduction, comment faire vos personnages, et les auditeurs vont pas pouvoir le voir. Mais en gros, ça c'est la couverture de l'épisode 1.
Oh, on voit une tête de Père Noël qui a l'air particulièrement peu sympathique.
Voilà. Il a l'air vénère le Père Noël, j'ai peur.
Voilà, donc en gros c'est un serial killer à l'époque de Noël qui va massacrer des gens, hein, comme d'habitude. Alors les joueurs vont un scénario fait 3 pages, c'est-à-dire qu'en gros vous avez la description, le genre, le synopsis, des prêts tirés, le monstre, ses caractéristiques, la bande sonore conseillée, une petite description du scénario et donc la trame. La trame étant la liste des seuils qui vont augmenter au cours de la partie. Et c'est tout. Et après, à vous de vous en sortir pour faire jouer une partie.
Et est-ce que ça suffit pour jouer, enfin pour maîtriser plutôt ?
Carrément, en fait. À partir de là, comme tout le monde est un peu dans le trip slasher, on en a tous vu un, les joueurs savent à peu près comment se comporter et le MJ aussi, comment les pourrir. Et ce qui est rigolo, voilà, la suite de la campagne, ben, c'est Sangrientas Navidades, 2 terreurs sur le campus. Le méchant revient, donc ça c'est le retour. À nouveau 3 pages. Ensuite, le 3, retour de la tombe.
Oui, on voit que le Père Noël, il a pris quand même un méchant coup de...
La femme de Santa.
L'amourère de Santa.
Capitulo final. Où il sort de la tombe.
Et forcément, c'est pas le dernier en général.
Évidemment, ce n'est pas le dernier, puisque nous avons le copycat.
Ah, un nouveau commencement. D'accord.
Voilà, je me demande s'il y en a encore un derrière. Non, c'est bon. Ils vous donnent des inspirations pour le reste. Donc, c'est très rigolo, c'est très très bien fait. Ça se lit super facilement. Et en fait, il y a des inspirations pour tous les films, tous les genres. C'est très chouette. Et au-delà de ça, le livre est vraiment super beau. C'est intégralement illustré de photos, mise en scène, maquillage et tout, fait par un super bon photographe, très bon maquilleur et tout. Et c'est vraiment magnifique, quoi.
Moi, j'ai une question. Quand tu vois les 6 là qui sont très intéressants au niveau, enfin les titres nous font rire parce que c'est des références à ce qui existe déjà. Est-ce que en tant que joueur, c'est pas un peu répétitif ? Est-ce que t'as pas toujours bon, c'est vrai que tu meurs à chaque fois, donc tu te refais des persos.
Ouais.
Mais est-ce qu'ils ont moyen de gagner ?
Oui, ils ont moyen de gagner. Ouais.
Voilà. Et ensuite, est-ce que c'est pas Oui, justement, répétitif. Est-ce que t'as pas l'impression de refaire le même scénario tout le temps? Un peu comme quand tu vois Jason 1, 2, 5, 7, oui. 9, 12.
Bah, ça a le défaut de ses qualités, oui. Ça correspond très très bien au genre. Donc, si tu fais la campagne entière, soit t'as des joueurs qui, comme nous, se bourrent la gueule avant de faire la partie et vont plutôt passer un bon moment. Si t'en as qui veulent faire du néphilim autour de la table, ils sont mal.
Ça va les calmer. D'accord.
L'alcool est obligatoire alors pour vraiment profiter du jeu?
J'ai une autre question. Qu'est-ce que tu vois comme avantage ou comme intérêt à ce jeu-là précisément par rapport à des jeux du même genre comme Sombre ou Dead Sang qu'on a déjà chroniqué?
Alors, Sombre et Dead Sang, malheureusement, je ne les connais pas trop. Donc, je ne vais pas aller faire la comparaison. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le mécanisme de trame et de seuil et la simplicité de mise en place et d'apprentissage. C'était vraiment, ça rend bien le genre, c'est vraiment rigolo. Et cette histoire de seuil, pour l'avoir déjà expérimenté sur Lacuna, où ça marchait super bien, je sais que c'est un mécanisme qui fonctionne bien, quoi.
Et c'est un mécanisme qui est très aléatoire, non? Puisque tu nous as dit que c'est que avec les 1. Est-ce qu'il y a moyen de le faire augmenter, par exemple, avec les actions des joueurs ou sur une décision du maître de jeu, des choses comme ça?
Par les actions des joueurs, dès qu'ils vont lancer des dés, ça va se passer.
Oui.
Sur décision du maître de jeu, non, vraiment, il faut.
D'accord, il faut donc c'est jouer. Que aléatoire, quoi.
C'est que aléatoire. Okay.
Donc
ça va avancer assez vite.
Si un PJ rate son jet pour faire des crêpes, par exemple, ça peut inciter le méchant à devenir plus puissant.
Exactement, un peu comme dans Evil Dead 2, tu sais, quand il se casse des assiettes sur la tête, genre de choses.
c'est vrai. Belle référence.
C'est ça la culture.
Ok.
Aussi un truc, quand tu parles de présage, c'est juste le terme qui s'appelle présage?
Oui.
Ou tu as vraiment des trucs que les PJ voient, qui leur disent « Ah tiens, on va bientôt se faire couper en morceaux
». Voilà, quand il y a des présages, normalement le MJ est censé mettre un petit peu de couleur au fait qu'il se passe des choses, quoi. Donc évidemment, les joueurs vont se rendre compte, déjà ils ont vu le GD, mais dans l'ambiance. Les D'accord. personnages vont se rendre compte que quelque chose ne va pas.
D'accord.
Après, c'est effectivement le nom du truc. Et ils vendent même les D6 avec le symbole de Fragmentos à la place du 1. Bon, ça a un intérêt très très limité, sauf pour les collectionneurs de dés. Les gens connaissent.
Je dirais rien.
Tu veux donc dire que c'est génial et qu'il faut absolument les acheter, c'est ça?
Non, par contre, le jeu, ouais, ça vaut vraiment le coup.
Donc le jeu, il n'est pas du tout traduit, par contre, c'est qu'en espagnol?
Non, c'est qu'en espagnol. Okay.
Alors, il faut...
C'est facile à lire.
Quel niveau d'espagnol
Franchement, 5e, 4e. c'est assez facile à lire. Je ne suis pas un grand lecteur de l'espagnol et ça passe tout seul.
Ok, 3 ans d'espagnol et c'est bon.
Ouais, voilà.
3 ans.
Bah, le truc, c'est que tu es aidé par le genre. Ouais. C'est quand tu essaies de lire Aquelarre en espagnol, tu as tout le vocabulaire médiéval, toute la culture de l'époque qui t'arrive en pleine poire et là, tu galères. Fragmentos, ça te parle de teenagers dans se faire trancher au hachoir dans les couloirs sombres d'un hôpital, ça va encore.
D'accord.
Hôpital, c'est hospital, bon, ça va.
Voilà.
Ok. Bon, c'était qui veut prendre la suite?
Bah, moi, je veux bien, avant d'avoir bu trop de punch. Comme ça, après, je pourrais me bourrer la gueule tranquillement.
En toute simplicité.
Oui, j'aurais plus rien à dire.
Je t'attends.
Et donc, c'est une bonne introduction parce que, en fait, Vorheim, on en avait parlé l'année dernière, dans la première émission apéro. C'était même Loris, ici à ma droite, qui l'avait évoqué, je sais plus pourquoi. On avait déjà un peu bu, donc tout ça est peut-être un peu flou. Et Michael, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous entend, j'en suis sûr, m'a mis ça entre les mains en me disant « Tu vas voir, c'est génial, c'est un bouquin pour générer ta ville médiévale dans un contexte genre donjon, quoi. » Alors c'est ça, et puis c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le bouquin s'appelle pas... je sais pas, Random Medieval City, il s'appelle Vorheim. Donc c'est quand même un setting... d'un mec donc qui est celui qui anime l'émission qui s'appelle je sais plus comment D&D with Porn Stars et c'est l'univers dans lequel il fait jouer en fait. Donc toute
est-ce qu'il y a des photos des porn stars à l'intérieur du livre?
Attendez, genre de question. Eh bien non, je suis désolé. Il y a des photos mais enfin il y a des dessins mais ils sont pas très bandants quoi. Et donc en fait toute la première moitié du livre c'est une description du setting, ce qui est un petit peu étrange parce que le gars commence vraiment en te disant ah tu vas voir, tu vas pouvoir faire ta ville comme tu veux avec plein d'éléments aléatoires et tout, mais d'abord pendant 50 pages je vais te présenter mon setting. sachant qu'il y a un moment du jeu où il dit oui, je trouve que quand on donne trop de détails au MJ dans un suppléant de background, ça a tendance à le faire un petit peu paniquer parce qu'il y a plein de termes qui doit mémoriser et tout, donc j'évite de le faire, alors qu'il vient de le faire.
Il ment en fait.
Voilà, c'est sans doute ça, ouais. Donc après, le setting, bon, moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je ne vais pas le détailler, mais en gros, Vorheim, c'est une espèce de cité qui m'a fait un petit peu penser à Exil, pour ceux d'entre vous qui voient la cité d'Exil, donc une espèce de grande tour comme ça, avec des bâtiments empilés les uns sur les autres, avec des ponts entre les différentes tours, etc. Bah là, c'est la même chose, en mode médiéval. Avec tout plein de bizarreries, donc bon, il y a vraiment plein de trucs, des religions super bizarres, des monstres, un zoo avec plein de créatures super chelou, enfin vraiment, voilà, si tu veux du chelou, il y en a quoi. Mais bon, voilà, je suis pas plus convaincu que ça par le setting, qui est pas extra et qui en plus effectivement demande de non seulement de mémoriser plein de noms super bizarres, mais il y a tout un tas de trucs alors qui est très marrant à la lecture. Par exemple, les traditions de la ville, genre dans Vorheim, le chiffre 6 porte bonheur, donc si vos joueurs font un 6, c'est super la fête pour eux. Par contre, le chiffre 7 porte malheur, donc s'ils font un 7, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si un chat avec les poils bruns passe devant vous, il faut le nourrir, sinon votre nourriture aura un good shot pendant 7 jours. Si une sœur de la mariée a une objection au mariage, le mariage est invalide, enfin c'est plein de trucs comme ça. Bon, c'est rigolo, c'est ce genre de superstition, sauf que, encore une fois, faut les imposer aux joueurs, donc c'est là peut-être que ça coince. Ça aurait été plus marrant de faire un truc où les joueurs peuvent créer leur propre superstition, et donc du coup c'est un peu plus facile à intégrer et à mémoriser, quoi.
En fait, moi ça me fait penser à la élite et aux terrasses du châtiment où faut pas tourner à droite sauf certains jours.
Ouais, bah il y a un peu de ça, effectivement. C'est complètement arbitraire, quoi.
Quel rapport entre ça, entre ce que tu viens de nous dire, les superstitions, et le fait de pouvoir créer sa ville? J'ai pas compris.
Alors, justement, c'est que toute la première partie du bouquin, c'est une description de Vorheim, la ville de Vorheim, telle que Zach S. L'a fait jouer. Donc c'est vraiment genre, si vous aussi vous voulez jouer à D&D with Porn Stars mais sans les stars du porno, vous pouvez, parce que voilà mon univers.
Okay.
Mais et donc c'est ce, par exemple, les superstitions, il te dit bah voilà, c'est les trucs que moi je fais avec les joueurs et tout, mais ça n'a rien à voir avec effectivement la création d'une ville. C'est là que le produit est un peu mensonger. En fait, le côté création de ville, kit de création de ville, puisque c'est quand même le sous-titre du bouquin, n'intervient que à partir de à peu près la moitié du bouquin. Et grosso modo, c'est une série de tables et puis quelques astuces, on va dire, pour créer rapidement des éléments en jeu. Et cette partie-là est beaucoup plus intéressante. Il y a même des trucs assez sympas, donc notamment le truc dont Loris avait parlé l'année dernière, donc je vais peut-être le répéter du coup, qui est le système de navigation à travers la ville. Pour créer un plan de quartier ou avec des rues et tout assez rapidement. Et c'est vraiment un truc tout con. L'idée, c'est que tu prends une feuille de papier, tu lances 2 dés. Le premier va représenter le point de départ des joueurs. Le deuxième dé va représenter leur point d'arrivée. Tu les lances comme ça sur la feuille. Imaginons que le premier dé fait un 1, le deuxième dé fait un 8. D'accord ? Là où le premier dé est tombé, tu dessines un 1. Là où le deuxième dé est tombé, tu dessines un 8. Et après, tu décris l'environnement aux joueurs comme si les rues avaient une forme de 1, en fait. Est-ce que c'est clair?
D'accord, oui.
Tu vois,
oui,
ça fait comme
clair,
ça.
Mais c'est complètement con.
Oui, c'est con, mais c'est rigolo.
C'est super efficace, en fait, pour mettre des carrefours. Et dans le cas de course, en fait, quand tes joueurs veulent faire une poursuite, t'as une course poursuite, en fait, et t'as besoin de décrire des carrefours et des embranchements, etc. Bah, t'as juste à jeter des dés, tu t'as pas le dire à tes joueurs, en fait, mais tu vas juste leur décrire les rues et tout ça, et tu vas pouvoir leur dire il y a un embranchement, il y a un virage, il y a un truc, etc., sans avoir à inventer ou à réfléchir ou à faire quoi que ce soit. Tu t'as même pas besoin d'utiliser ton cerveau, c'est très pratique.
Après, ce qui est vrai, c'est que bon, de toute façon, c'est le cas un petit peu pour l'ensemble du bouquin, c'est-à-dire que c'est un truc qui fonctionne pour les gens qui aiment bien prendre les trucs un peu au pied de la lettre. C'est-à-dire, si je prends un exemple d'une autre cité médiévale qui est Vasburg. Ça m'y a fait penser parce que en ce moment sur Casus, enfin il y a quelques jours, on parlait de Vesper comme ça, il y a des gars qui disent ah ouais mais alors bon le plan de la cité il est sympa mais il est pas assez détaillé, moi j'aimerais bien savoir dans telle rue il y a telle taverne et puis alors machin si tu tournes à droite t'as tel truc et tout. Bon personnellement c'est un truc que je trouve pas super intéressant parce que c'est plus sympa je trouve de décrire les trucs de manière un peu abstraite, t'as pas forcément besoin de savoir qu'il faut prendre la deuxième à droite et ensuite la troisième à gauche pour arriver à la taverne du clou tordu, mais pour les gens qui aiment faire ça et donc a priori il y en a.
En tout cas il y a pas besoin que ce soit exact, tu peux leur dire tu prends la deuxième à droite et après c'est la première à gauche.
Oui c'est ça.
Et t'y seras, mais il y a pas besoin que ce soit exact ou que ce soit décrit sur un plan quoi.
Il y a plein de MJ qui adorent ça, je veux dire si on vend des bouquins de 400 pages qui te décrit la ville rue par rue, enfin faut voir la gamme de l'appel de Cthulhu quoi, c'est à la page 23, enfin rue 23 rue machin à Arkham vous avez un magot, au 26 vous avez une boutique où vous pouvez acheter ça, c'est horrible vrai. Mais
en fait Vornheim c'est fait pour faciliter j'ai l'impression que c'est fait pour faciliter la vie aux MJ qui aiment pas trop faire ça mais qui ont des joueurs qui aiment bien et donc tu peux le faire quand même voilà parce que t'as en fait toute la deuxième moitié du bouquin c'est que ça, c'est-à-dire que t'as un système pour créer des quartiers super rapidement, un système pour déterminer en deux jets de dés combien va coûter un objet quelconque auquel tu n'avais jamais pensé avant, un système pour chercher une information dans une bibliothèque, plein de trucs comme ça. Et après, toute la fin du bouquin, c'est des tables. Des tables. Alors, tu as des tables de PNJ qui sont énormes. Tu as des tables de livres, depuis les livres normaux jusqu'aux livres magiques. Tu as des tables encore de PNJ. Tu as des tables de marchands. Avec également leur personnalité. Genre, il vend ça et en plus il est sympa, ou alors c'est un gros connard et tout. Un petit truc pour déterminer au hasard les relations entre différents PNJ. Quoi d'autre ? Une table de rencontre, parce que c'est des idées quand même. mais attention, c'est pas une table de rencontre, genre vous rencontrez un orc de niveau 5, c'est plutôt. Alors, t'as des trucs comme ça, genre un des 8 tentacules jaillissent d'un corps ou d'une carcasse et vous attaquent. Mais ça peut être aussi, il y a une éclipse de lune, tout le monde est superstitieux et parano jusqu'au matin.
Bon, ça a l'air mortel.
T'as une table assez marrante de prédictions. De présage, voilà, avec tu sais des phrases extrêmement mystérieuses, genre une corde va se tendre lorsque la musique jouera. Bon, voilà.
Ok.
le jouet d'un enfant se révélera avoir un but sinistre. Un truc comme
D'accord.
C'est aussi un générateur de fortune cookies en fait.
Je vais essayer.
C'est un générateur de gâteaux chinois.
T'as un générateur de je fouille le corps. voilà, un générateur de gemmes de
fées. Tu trouves une chèvre.
Un générateur de noms de taverne.
Et une perche de 3 mètres.
voilà, plein de trucs, plein de trucs comme ça.
Si je peux me permettre de sauver le bouquin, parce que c'est moi qui en ai parlé l'an dernier. Je vois Vornheim. Vornheim à la base, le mec qui fait le truc, Zach Smith, il a un blog et en fait il avait fait des articles sur ce blog, donc certains des trucs qui sont dans le bouquin sont disponibles gratuitement sur le blog en faisant de l'archéologie dedans. Et ce sont les parties les plus intéressantes à mon avis du livre. Après on est venu le démarcher pour qu'il en sorte un bouquin puisqu'il bossait pour il utilisait Lamentations of the Flame Princess, donc l'auteur du bouquin lui a plus ou moins demandé d'en écrire un bouquin, donc il a fait Vornheim. Et moi de mon point de vue il faut rester dans l'esprit d'origine, c'est-à-dire que tu vas pas jouer dans Vornheim c'est son truc à lui et tu vas pas pouvoir l'absorber ou le présenter à tes joueurs. Par contre tu fais jouer à Planescape et t'as Sigil. D'accord, c'est une énorme ville, etc. On te l'a déjà décrite sous toutes les coutures, mais bon, c'est pareil que Vornheim, faut l'absorber. Mais tu t'amènes tes PJ dans Sigil, donc la ville de Planescape. Et
ce ne sont pas des sextuplés qui s'appellent tous Gilles, donc.
Non.
Non.
Et les
le ponche pour toi.
C'est le ponche. C'est le ponche. C'est voilà, t'arrêtes le ponche. Donc l'idée, c'est que tu fais jouer tes personnages dans Sigil et tu vas utiliser Vornheim, le contenu de Vornheim, pour, dès que tu es un petit peu en panne d'aspiration, dès que tu as envie de mettre un truc, etc., pour lancer, faire rebondir ta campagne. Tu as besoin d'une courte poursuite, tu as besoin de rue, bah, tu utilises le générateur de rue. Tes joueurs vont dans une bibliothèque, bah tu vas passer par le truc de bouquin. C'est des tables qui sont beaucoup plus rigolotes que celles qui sont présentes dans Donjon, qui sont plus petites, et le bouquin prend pas de place. En résultat, tu peux t'en servir.
Et il prend pas de place et en plus t'en as la moitié qui est consacrée à quelque chose qui t'intéresse pas, qui est le monde.
Non, c'est mais ça. Justement, tu peux récupérer les morceaux du monde parce qu'ils sont récupérables. Genre, tu fais découvrir à TPJ une des superstitions du truc. Genre, il y en a une, c'est je m'en souviens, c'est quand quelqu'un éternue, il faut que tout le monde autour fasse semblant d'éternuer. Sinon il y aura une petite malédiction ou je sais plus quoi, donc tu peux introduire ça à un moment donné dans ta partie et ça peut être rigolo. C'est juste tu prends ce que tu veux et tu jettes le reste, c'est gadget quoi.
Et tu sais rapprocher toute la description de Vorheim par rapport aux tables qui sont après.
Oui.
Il y a vraiment un lien entre les deux.
Il a
vraiment utilisé ses outils pour créer Vorheim.
Voilà, c'est ça.
Limite, dans ce cas-là, ça peut être un exemple de ce qu'on peut obtenir en utilisant ses outils.
C'est ça.
En fait, moi, le reproche principal que je ferais au bouquin, c'est que je vais pas dire que c'est un produit mensonger, mais en gros, ça présente mal ce que c'est vraiment, quoi. Parce que c'est vraiment, comme tu dis, par exemple, il aurait pu dire effectivement, tu vois, genre mettre toutes les tables et tout, et dire, bah voilà, un exemple. Moi, avec ça, j'ai fait Vorheim.
Limite, en fait, il aurait inversé les chapitres de création et le chapitre de description de la ville, le produit aurait été...
Bah c'est ça, parce que moi, quand je l'ai lu, j'ai vraiment... tu vois, je feuilletais les trucs, je voyais, machin, la loi à Vorheim, le zoo de Vorheim, machin truc, le grand sorcier, avec un plan de sa baraque et tout. Et j'étais là, genre, mais je m'en fous, enfin, je veux dire... si je veux faire un scénar avec un grand sorcier à moitié fou, je le fais moi-même. Donc, à la limite, je le fais moi-même en utilisant l'étape du bouquin. Mais... bon, je sais pas, est-ce qu'il avait un nombre de pages à remplir? Bon.
Alors, je vais parler d'un truc aussi dont Com n'a pas parlé,
oui.
Qui est vraiment sympa,
c'est normal,
pour
tu
les.
Tu m'as coupé la parole. Non, mais vas-y, tu l'expliqueras.
Putain, le regard de haine.
c'est qu'en fait, le bouquin, pour le coup, comme il a gâché les pages à l'intérieur, il s'est dit, je vais me rattraper à l'extérieur. Et en fait, les.
Oui, c'est utilisé de couverture à couverture.
Ouais. Donc, en fait, t'as une jaquette bon, qui peut s'enlever. Et t'as un plan de la ville, si on peut l'appeler comme ça, qu'apparemment tu peux récupérer sur internet en plus grand. Il te dit si
tu
es
en train de regarder, je vois pas beaucoup de 1, de 2.
En fait, ça ressemble vachement au quartier de Kowloon de Hong Kong avant sa destruction.
Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Et alors, en fait, les deux couvertures, c'est des générateurs également. La quatrième de couverture, c'est fait pour générer des attaques, c'est-à-dire que tu balances un dé sur la couverture et ça va te dire comment ça s'appelle, le score pour toucher, le nombre de dommages qu'ils font et où ils te touchent.
En gros, tu lances le dé, tu regardes.
Ouais, voilà. Tu lances le dé
en
fait,
sur le tour.
En fait, bon, je décris hein, pour ceux qui n'ont pas la couleur sur leur téléviseur. sur chaque côté du truc, t'as des chiffres. Donc sur le côté gauche, t'as des chiffres qui vont de 1 à 20. Ça va être le score pour toucher. Donc en gros, tu lances le dé et si ça tombe plutôt vers le bas, tu regardes la ligne à peu près sur laquelle ça tombe. Voilà.
D'accord.
Le score en haut, ça va être les dommages si c'est un dommage de 1 à 6 et le score en bas, un dommage de 1 à 8. Donc pareil, tu regardes à la verticale où c'est tombé et à droite, tu as les endroits du corps. Donc tu jettes le dé, imagine il tombe là, ça veut dire que il va falloir faire 16 pour toucher, il fait 4 de dégâts et il te touche dans l'estomac.
Alors je précise, tu jettes un D4, ce qui te permet d'avoir en fait en un seul jet de dé le résultat d'un D4, d'un D6, d'un D8 et d'un D20.
D'accord.
Ce qui est assez pratique. Oui. Par contre, la distribution n'est pas équiprobable. C'est-à-dire que ton dé va avoir tendance à tomber au milieu du bouquin.
Oui.
Donc tu vas tomber plutôt sur les résultats moyens. Mais c'est pas très grave en soi.
Et voilà. Et la couverture.
Et après, les joueurs, ils peuvent viser aussi. Et s'ils sortent du bouquin, ça donne quoi?
S'ils sortent du bouquin, je sais pas, il y a un trou noir qui
un warp.
C'est pour le MJ surtout. Hein. À Donjons et Dragons, les joueurs, ils aiment bien jeter tout leur dé. Le MJ, ça le fait chier.
Si tu jettais leur place, attention.
Non, mais j'aime bien.
Et sur la couverture,
attention, pas tous en même temps.
Ouais, sur la couverture, juge fini, t'as un générateur équivalent là qui sert pour plein de trucs. Ça va servir à générer les caracs d'un animal, d'un monstre, d'un combattant, d'un voleur, de garde ou d'un sorcier. Tout ça sur la même table avec à peu près le même principe, hein, des trucs qui vont te déterminer leur point de vie, les dommages maximum qu'ils peuvent faire, la classe d'armure, etc. Et tu peux aussi, toujours avec la même table, générer une auberge, une petite pièce, une pièce moyenne, une tour, mais aussi une attaque magique mineure, une attaque magique majeure ou un poison. Voilà.
Oui, ouais. Yannick,
non, juste une question.
Tout ça sans ouvrir le livre.
J'ai bien compris que c'était pas plus mal. Moi, j'ai une question. Là, tu nous as décrit donc un univers, ensuite un générateur d'univers, un bout de règles. Est-ce que tout ça fait un jeu de rôle complet?
Non. Clairement non, parce que, et d'ailleurs le
est-ce qu'il y a des scénarios par
le,
exemple
le jeu que... se présente pas comme ça, le jeu se présente comme un kit, c'est ce que Loris a dit tout à l'heure, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que t'as pas de système. A priori, c'est quand même pour faire.
Bah, c'est un bout de système ce que tu nous as décrit.
À la base, c'est un supplément pour Lamentations of the Flame Princess, voilà. Qui est un rétroclone de Donj.
D'accord. C'est ça. Okay. Mais il me semble qu'il précise quelque part. Voilà, il dit que on peut jouer avec ça à Donj première, deuxième, troisième ou quatrième édition.
Alors la compatibilité.
Mais c'est peut-être pas vrai. Hein. Je
si
sais
si
pas.
C'est vrai. En fait, la compatibilité. Le truc, c'est que toutes les éditions de Donj sont plus ou moins compatibles en fait. Mais la compatibilité des quatre éditions, c'est parce qu'il y a une des deux tables sur la couverture. Je sais plus laquelle, qui va te donner quand tu jettes ton dé, va te donner d'un côté la classe d'armure touchée dans le cas où c'est une classe d'armure croissante, et de l'autre côté la classe d'armure touchée dans le cas où c'est une classe d'armure décroissante.
C'est ça, il a pensé à tout.
Il a tout pensé.
Et voilà. Et après, non, il y a pas vraiment de.
C'est un espèce d'ovni en fait, hein, parce que moi je suis intrigué plus que.
Ah oui, non, mais c'est vraiment.
C'est qu'intéressé, j'allais
dire. Ouais, c'est vraiment une curiosité. Il y a pas vraiment de scénar. Après, si tu reprends les trucs du background de Vorheim, bah comme je disais tout à l'heure, t'as des PNJ majeurs qui sont introduits. Avec, tu vois, donc t'as le sorcier avec le plan de sa maison, les monstres qu'il a dans sa cave et tout, donc ça peut faire
mais
un scénar.
Il y a des pitchs, il y a des accroches,
Bah non, et non. C'est ça qui manque un petit peu. C'est-à-dire qu'un générateur qui manque là-dedans, c'est le générateur de scénario, le générateur d'intrigue. C'est un peu dommage d'ailleurs.
Moi je trouve que c'est une bonne série d'inspiration si tu veux rajouter des trucs dans ta ville. Par exemple, le zoo, il est quand même assez original. Enfin, les trucs sont originaux, c'est ça qui est plutôt pas mal, je trouve.
Ouais, mais bon, je sais pas, c'est l'originalité pour faire de l'original. Bon, moi, j'ai pas été super convaincu, quoi.
Alors, est-ce que des joueurs qui tombent dans une rue en forme de 8 restent coincés dedans
à l'infini?
Et oui, c'est ça le problème.
C'est toi qui me taraude depuis tout à l'heure, en fait.
Non, parce qu'après, tu rajoutes des trucs. En gros, ce qu'il dit, c'est que tu lances 2-3 dés pour faire des rues en forme de chiffres. Après, tu fais des zigouigouis pour les relier, et puis voilà. Mais potentiellement, oui.
Dans Bitume, il y a un certain nombre d'années, t'avais des générateurs de route qui permettait de savoir s'il y avait des trucs pour aller à gauche, à droite, en T, des carrefours, des trucs comme ça.
C'est inspiré de Car Wars, quoi. De Car Wars aussi.
Mais ouais. Complètement. Je me demande si en fait, je suis pas en train de confondre, parce qu'à l'époque, on jouait à Car Wars et à Bitume en même temps.
Il me semble
que c'était ça. Bitume, ouais. Et dans ce cas-là, c'est un peu la même chose. T'as tes rues, tu fous tes bâtiments autour.
Croc n'a pas traduit Car Wars pour rien.
Ouais, non, mais c'est.
Alors, juste un petit addendum, parce que je refeuillette le bouquin en vous parlant. Et à la toute dernière page du bouquin, c'est-à-dire dans les pages de garde, t'as un générateur de bâtiments avec quelques accroches. Mais alors bon, quand je vois les accroches, je me dis c'est pas plus mal qu'il n'y en ait pas plus. Par exemple, tu as le cordonnier. Et donc, attention, la description. Un cordonnier qui est populaire chez les nobles femmes cherche à monter sur le trône. Son complot implique... son complot implique de quelques manières un sabotage avec des chaussures. Voilà, démerde-toi.
Ah, on rigole, mais avec ça, il attire des pornstars à sa table. Hein. Donc, réfléchir.
Des pornstars de films, quand même. C'est des pornstars de pornographie alternative.
Attention,
il y avait des photos sur son blog, justement. Le blog, il y a des photos de parties, quoi. Donc tu vois leur tronche, c'est piercing, tatouage et cheveux colorés. Donc à mon avis, c'est une certaine gamme de pornographie.
De toute façon, moi, tu vois, D&D with Famous Brain Surgeons, par exemple, ça m'aurait intéressé aussi. Hein. c'est un autre style de jeu, mais bon.
Oui. Il joue à Rollmaster.
C'est ça.
Je suis désolé parce que la couverture de Vorheim ne remplace pas encore tout à fait les tables de Rollmaster. J'ai cru.
Ça aurait pu complètement se substituer.
Mais cependant, par rapport au nombre de pages du bouquin, il propose quand même beaucoup de choses.
J'ai pas spécifié que le bouquin est une taille poche un peu comme les bouquins de John Doe. Et il fait très exactement, sans compter les pages de garde, il fait 64 pages. Donc, en gros,
sachant qu'il y a aussi plein de tables sur les pages de garde quand même.
Ouais, donc en gros, t'as une soixantaine de pages, quoi.
Je sais plus, c'est 10 dollars. Il est pas très cher,
Il n'y a pas le prix.
En PDF, il doit être encore moins cher.
Il n'y a pas le prix, mais ça doit pas être bien cher. Ouais.
Mais en PDF, tu peux pas lancer le dé sur la couverture.
Tu jettes sur
ta tablette.
Tu prends des dés métal.
T'es pas moderne.
Mais enfin, voilà, donc c'est vraiment une espèce de curiosité. C'est assez marrant, un peu bizarre, un peu décevant et un peu utile. Voilà,
d'accord.
Tout ça à la fois.
Et alors je me souviens plus, il est en PDF, il est trouvable en PDF celui-là ou pas?
Bah, on vient de dire que je ne sais pas.
Oui, il est sur DriveThru.
Ah d'accord, ok, bon. Bon, et eh bien merci. que je sais que je n'achèterai pas ce bouquin. Alors, on va peut-être pas passer à Oltré tout de suite, bah, parce qu'il va falloir qu'on fasse une coupure dans une dizaine de minutes.
Oui. C'est dommage, parce que ça aurait bien enchaîné avec les générateurs.
Oui, oui, mais mon verre est vide.
Yannick, peut-être que tu peux nous faire...
En 10 minutes ?
Ouais.
Attention, top chrono.
Alors, dans ce cas-là, je vous parle de Shadowrun Return. Alors, je parlerai de comment dire, Stargate tout à l'heure.
Donc, Shadowrun Return qui n'est pas un
jeu de rôle. Alors on va sortir effectivement un petit peu des sentiers battus ou de ce qu'on fait d'habitude, mais j'en parle parce que ça a quand même un rapport très 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 fort avec le jeu de rôle, puisque bon, déjà ça s'appelle Shadowrun. C'est un jeu vidéo qui est édité par un petit studio qui s'appelle Harebrained Schemes, et le leader est l'un des créateurs de Shadowrun le jeu de rôle, mais aussi d'autres jeux comme genre BattleTech, MechWarrior, enfin toi, toute la série de jeux qu'il y avait à l'époque chez Faza, il me semble.
Oui.
Donc le gars il a créé un studio de développement de jeux vidéo, et c'est l'une de leurs premières productions, il me semble même que c'est la première. Ouais, donc c'est un jeu vidéo en 3D isométrique.
Oui, complètement 3D isométrique.
Comment on peut appeler ça? Donc c'est en gros, pour ceux qui savent pas, c'est vu de 3 quarts.
Diablo,
un peu à la Diablo. Exactement, ouais. On fait évoluer un Shadowrunner, donc un personnage, dans l'univers du jeu de rôle Shadowrun. Alors, je ne vais pas reparler de Shadowrun lui-même, je vais considérer que les gens connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est assez large, mais enfin bref, on va dire que vous connaissez. Le jeu commence par une phase de création assez complète, avec le choix des races, des compétences. Le système de jeu, il est assez simple, il est très 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 simplifié par rapport au jeu de rôle, et heureusement. Mais il est très, très fonctionnel. Il ressemble un petit peu à ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'on sent que dans le système de jeu, il y a quand même des rapprochements avec le jeu de rôle.
Il garde quand même bien l'inspiration du jeu de rôle. Ouais.
Et même si on ne connaît pas le jeu de rôle ou le système de jeu, clairement, on rentre très, très facilement dedans. C'est un système de jeu vidéo. Il n'y a vraiment rien de complexe. Donc il y a des caractéristiques, il y a des compétences qui dépendent de ces caractéristiques. Les compétences débloquent des pouvoirs spéciaux, par exemple des possibilités de faire des tirs visés, des tirs en rafale, des choses comme ça. Comme on est dans Shadowrun, il y a de la magie, avec tous les sortilèges classiques. On peut aussi invoquer des esprits, il y a aussi des grosses armes, il y a aussi de la cybernétique. Et il y a aussi la matrice. Donc tout y est. Tout y est, et de manière extrêmement simple. Les personnages ne sont pas limités, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se fait un street sam, donc un samouraï des rues, cybernétisé, qu'on peut pas avoir de la magie ou qu'on peut pas invoquer des esprits en même temps. Il suffit simplement de prendre les compétences. Donc clairement, on sera moins fort, mais en tout cas, c'est faisable. Une fois que le personnage est créé, l'histoire commence. Un ami vous appelle et vous annonce qu'il est mort. Et que sa mort a déclenché ce qu'on appelle le Deadman Trigger, une séquence vidéo automatique où il va vous demander d'enquêter sur sa mort pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi il est mort, et si vous réussissez à trouver, vous allez obtenir une belle récompense. Ensuite, on commence. Donc ça, c'est vraiment la première action. Ensuite, il y a le tutoriel. Le tutoriel, c'est un premier run. En fait, c'est vraiment une action, enfin une fin de run.
Qui a un flashback d'ailleurs.
Ouais, c'est un flashback. C'est une fin de run. Ambiance partage de butin et trahison, vraiment très classique. Et une fois que le tutoriel est terminé, l'histoire commence. Déjà le tutoriel, il met bien dans l'ambiance.
Le tutoriel met vraiment dans l'ambiance. Ouais. On retrouve tout Shadowrun.
Ah moi j'étais à Shadow direct dès la première scène.
Des Mr. Johnson, des
Mr. Johnson qui arrive pas, qui finit par arriver avec le Lannister qui nous tire dessus. Vraiment tous.
C'est du pur Shadow. Ensuite, l'histoire commence. Alors, je vais pas spoiler parce qu'il n'y a pas de raison. L'histoire est assez longue. Il y a une quinzaine d'heures pour finir le jeu. Elle est très très bien écrite. Et elle immerge complètement dans ce que je trouve être l'essence même de Shadowrun, personnage mythique compris. C'est-à-dire que ceux qui connaissent bien Shadowrun vont se gaver. C'est-à-dire qu'ils vont kiffer les personnages, ils vont kiffer les personnalités qui sont respectées, ils vont vraiment aimer. Ceux qui connaissent pas n'en auront rien à foutre, ils vont kiffer le jeu tout court. Sans avoir besoin de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a dans le scénario, si tu veux, il y a des petits moments où si tu connais l'histoire, si tu connais bien Shadow, tu surkiffes vraiment des trucs. Mais t'en as pas besoin.
Bon, en gros, tu croises Arlequin, quoi.
Ouais. Et ça me fait plaisir de le croiser. Ouais.
Alors, spoiler.
Il y a pas que. Alors, je voulais pas le dire, mais il y a pas que Arlequin. Il y a d'autres personnages aussi. Donc voilà, dans ce scénario-là, on a de l'enquête, on a de l'interrogation, on a une pointe de furtivité, hein, pas grand-chose, il y en a quand même pas mal de combats. Les combats, d'une manière générale, sont très faciles, ils sont parfois un peu mous du genou, Hein, on n'est pas dans le truc super furieux, on n'est pas dans le
Et aussi, information très importante, c'est du tour par tour.
Oui, c'est du tour par tour.
Ouais. Faut bien avoir conscience de la chose. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'adore. Donc ça
moi,
non,
moi, j'adore, mais ça n'empêche pas que c'est un peu mou. Tu compares avec, par exemple, du XCOM ou du. Parce que c'est quand même
XCOM,
très inspiré d'XCOM.
XCOM, c'est aussi en tour par tour.
Oui, ouais, non, c'est la même chose. En fait, tu vois vachement l'inspiration XCOM, le dernier XCOM qui est sorti. Dans le système de combat de Shadowrun, là, t'as deux points d'action ou trois points d'action à peu près à la moitié du jeu, oui. Et tes trois points d'action, voilà, à chaque fois tu fais une action, c'est-à-dire soit te déplacer, soit tirer sur un mec, et c'est tout, quoi. Donc c'est pas super riche, et clairement il y a peu de feedback quand tu tires sur un mec, ça fait pouf et puis il tombe et c'est tout, quoi.
À la Fallout, quoi, aussi.
Non, Fallout, t'as un putain de retour quand tu tires sur un mec et que tu le dézingues et que le mec il a répondu sur trois cases.
Ah oui, il y a même pas
chose.
Ça.
Non. Oui, non, là, il tombe par terre. Enfin, c'est comme un Diablo 1 où tu vois à peine le cadavre par terre et puis après il reste une tache de sang et voilà quoi.
En jeu vidéo, on appelle ça un feedback. Tu vois qu'il y a peu de feedback sur les armes, le son il est pas super. Bon, on s'en fout, c'est pas le principal. Bon, il y a quand même pas mal de combats. Il y a 2-3 exceptions, notamment un run où on se fait défoncer. Faut défendre une pièce avec 2 portes. Il y a des dizaines de soldats qui sortent des ascenseurs et pendant ce temps-là, t'as un Decker qui est dans la matrice. En train d'essayer de trouver le moyen de bloquer les ascenseurs. Alors, donc c'est marrant parce que t'alternes les phases en physique où tu te défends comme tu peux et les phases matrice où le mec il est tout seul en train de se battre contre des IA et il faut que ça aille très vite dans la matrice parce que plus tu perds de temps dans la matrice, moins t'as de temps pour te défendre contre les méchants. Sachant que une fois que t'es dans la matrice, tu peux soit aller direct à ton but, soit te balader et aller chercher les différents autres serveurs pour récupérer de l'argent, enfin des données que tu vas pouvoir revendre contre de l'argent à des fixeurs un peu plus tard. Donc on est vraiment à fond dans Shadow, quoi. Donc le jeu il est très très beau, enfin, moi je le trouve très beau, il y a des décors peints qui sont pleins de détails, mais ce qui est vraiment vraiment impressionnant c'est l'ambiance qui se dégage des décors et des dialogues avec les PNJ. Les 5 premières minutes, moi j'étais un petit peu, je me disais c'était un peu bizarre, enfin je l'ai acheté direct le jeu moi, quand il est sorti le premier jour, je l'ai acheté, et dès que j'ai vu, j'ai dit c'est un peu bizarre, et dès que tu arrives sur le premier, que tu sors de chez toi en fait, c'est vraiment vraiment superbe. Pendant tout le jeu, j'avais vraiment l'impression de jouer une partie de Shadow, tout simplement. Les dialogues sonnent vrais. Les runs où t'as des runs où faut choisir ses coéquipiers et donc les payer en conséquence. C'est-à-dire que tu dis, est-ce que je prends le magicien, est-ce que je prends un Decker, est-ce que je prends un mec qui a des robots,
des drones,
tu vois. Est-ce que je fais des trucs. Enfin, tu sais jamais trop quoi faire. Tu dis putain, lui il a 1500 yens. Merde, c'est relou parce que ça va me rapporter moins d'argent à la fin, etc. Donc c'est assez sympa.
Alors moi je conseille le mage support qui est vachement bien parce qu'il peut lancer plein de sorts de soins.
Il y a le verbena là. Enfin bref.
et puis surtout ça amène aussi une horreur qui est très shadowrunienne, à savoir mission. Non, fin d'un run. Ouais. C'est soit je livre un gars au Johnson, mais le gars lui me propose sinon de racheter son contrat pour moitié moins. Ouais, moi, bah écoute, j'ai dépensé trop pour engager Runner, je te livre. Voilà, mais c'est contre ma morale, mais je te livre quand même parce que j'ai besoin des sous.
Alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu vas négocier avec les différents personnages, en fonction de tes compétences, tu vas avoir des options de dialogue qui vont apparaître. Si t'as beaucoup en charisme, si t'as la compétence étiquette business ou enfin des choses corporate, pardon, ça va te donner des options qui vont te permettre de gagner plus ou moins d'argent ou d'aller voir un fixeur plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est pas mal.
Justement, là, j'ai une question, c'est par rapport à ce qu'il disait. Ouais. T'as dit que c'était donc assez linéaire, assez toboggan,
ouais, par contre,
mais
linéaire.
Vu qu'il semble qu'il y ait des options, est-ce que ça te permet de pas prendre des chemins ? Est-ce que tu peux refaire le jeu et prendre des chemins différents ?
Non.
On sent ceux qui ont refait le jeu pour vérifier.
Par contre. C'est lié avec un générateur.
Alors, je vais en parler
où
juste après.
Tu peux créer vraiment des nouveaux scénarios et il y en a déjà disponibles.
Alors
sur Internet.
Je vais en parler juste après. Je précise juste un truc justement. Le jeu coûte pas cher. Le jeu coûte 17 euros. Enfin, moi je l'ai acheté à 17 euros, il doit être à 19 en fait.
Moi je l'ai kickstarté à 15 dollars.
Toi tu l'as eu à 15 dollars.
Il y a un an et demi, oui, quelqu'un.
Non, moi j'ai découvert son existence il y a une semaine avant, tu vois. Donc je l'ai acheté à 17 euros. J'en ai même acheté 2 exemplaires pour un pour un pote parce que tellement j'étais tout fou sur le truc. 17 euros pour 15 heures de jeu, sachant que c'est 15 vraies heures de bon jeu. Moi je trouve que c'est pas mal. Et surtout, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a les devs qui ont sorti tous les outils de production qui permettent de se créer ses propres campagnes et ses propres modes. Alors au début, moi j'ai pas trouvé ça super simple et finalement j'ai suivi 2-3 tutos sur les wikis et finalement c'est pas très compliqué. Donc c'est faisable, il y a plein de bouts de scénar qui commencent à apparaître. J'ai joué un petit scénar, une fois que j'avais terminé, j'ai joué un petit scénar qu'un mec avait fait et qui avait adapté d'un supplément qui s'appelait First Run. Notamment celui où il faut aller faire les courses dans un magasin là. dans un genre un Walmart, un truc comme ça, parce que t'as la dalle et le magasin il se fait braquer à ce moment-là. Évidemment, ça s'appelle premier run. Le but du jeu, c'est découvrir les règles de combat. Et le mec, il a dit qu'il avait fait ça super rapidement pour découvrir un petit peu l'éditeur. Et franchement, le truc, il est déjà kiffant, même comme ça. Donc c'est facile, clairement, c'est faisable. Et moi, ça m'a bien titillé l'imagination en me disant, ok, la campagne elle est sympa. Mais vraiment, je pense qu'il y a moyen de s'éclater sur à les faire soi-même, ou en tout cas jouer celle des autres. T'as plein de missions supplémentaires qui sont censées sortir. La prochaine, c'est sur Berlin.
Exactement.
Donc ils vont sortir toute une nouvelle campagne, manifestement plus grosse que ce qu'ils avaient prévu au départ. Et avec plein d'assets supplémentaires, c'est-à-dire pour ceux qui vont vouloir créer leur propre campagne, ils vont pouvoir se baser sur celle de Seattle, la première. Et prendre aussi toutes les nouveautés qu'ils vont dessiner, créer pour Berlin.
Voilà.
Donc moi je suis un gros fan du jeu, vous avez compris. Pour l'ambiance notamment, pour la capacité à créer nos propres missions, et puis surtout parce que c'est exactement le jeu que j'aurais voulu faire il y a 10 ou 15 ans, à une époque où je programmais beaucoup et je me cherchais des trucs à programmer. Donc voilà, et puis franchement c'est pas cher, donc il faut pas se priver.
Voilà, et puis moi j'ai fini de jouer et j'étais un peu en rate d'idées pour ma campagne Shadowrun en cours. Voilà, et tout plein. Ça relance très bien l'inspiration.
D'accord, merci. Moi j'ai aussi acheté le jeu et pareil, j'ai kiffé. Dans les campagnes qui sont proposées par des amateurs, il y a vraiment des très très bonnes choses. Faut fouiller un peu parce que des fois tu tombes sur des trucs un peu pourris, mais il y en a qui sont vraiment bien.
Et justement, c'était ça ma question, c'est toutes les campagnes et tout. Enfin, il y a un site qui les regroupe.
On va faire une petite.
On les mettra pause. Sur le site. Voilà.
Voilà, on va mettre tout ça sur le site. On fait une petite pause et on revient juste tout de suite après.